Ah, bonjour. Et bonne année à ceux à qui j'ai pas pu le faire depuis le début de l'année. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que je vous ai oublié. Alors, ce matin, quelque chose de. C'est un message, c'est un sermon qui ne prendra pas de fin. Alors, gardez pas votre montre ou. Parce que ça va durer longtemps. Moi, je vais finir vers 11h30, mais ça va continuer chez vous. Parce que la feuille que vous avez reçue, c'est que ce que je vais vous partager, c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur quand que je me préparais. Puis c'est quelque chose que. En tout cas, que je vais faire moi-même, fait que moi, moi non plus, mon sermon ne sera pas fini. Je vais continuer à travailler dessus, on va dire, jusqu'à temps que le Seigneur me prête vie. C'est que je vais vous partager à un moment donné, des versets. Sur la feuille, je vous ai donné le livre, le chapitre, mais je ne vous ai pas donné le verset. Ça va apparaître en temps et lieu. Et si vous n'avez pas un moyen d'écrire, là, moi, j'ai des crayons dans mon sac, en tout cas, ou si quelqu'un, s'il y en a qui n'ont pas soit un stylo ou un crayon, levez la main, puis on va vous fournir ça. OK? Et, en tout cas, ça, c'est les consignes avant, là, de se préparer en fonction de ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Prions. Père éternel, on veut te remercier que tu nous prêtes le souffle de vie. Merci de ton Fils Jésus qui est venu subir le châtiment que l'on méritait, subir la mort que l'on méritait, afin de nous accorder par la foi en lui la vie, la vraie vie, la vie unique et sans pareil que toi seul peux accorder. Merci que tu veux nous rendre vivants en Jésus-Christ. Merci que tu veux continuer ton œuvre dans nos vies et que tu puisses diriger nos pensées, nos cœurs par l'entremise de ta parole et ton esprit à ce que tu veux continuer de faire dans chacune de nos vies. Merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu as fait. Merci que de jour en jour, on peut compter sur toi, même en ce moment. Au nom de ton Fils. Amen. Alors, le titre, c'est « Renouvellement dans la nouvelle année ». Vous avez déjà vu ce symbole? Hein? Au point de vous enfarger dedans, peut-être. Qu'est-ce que ça représente, ça? Le recyclage, hein? Puis bien souvent, il va y avoir un R ou des fois trois R. J'ai vu sur le site Internet jusqu'à 5 à 6 R. Alors, mais là, moi, je... Ouais. Mais ça nous parle de... On va dire de quelque chose de particulier, je crois que... On peut le regarder du point de vue matériel, quand on vient le temps de faire le recyclage, parce que ça parle de réduire, de réutiliser, de recycler. Puis au début d'une nouvelle année, en considérant notre vie spirituelle, notre cheminement, il y a aussi trois R qui peut-être qui viennent à l'esprit. Il y a le R de rétrospection. Après ça, le R de regret. Puis là, on entreprend le R de résolution. Hein? Jusqu'à demain. Mais selon ce que Dieu dit dans sa parole, il veut que nous envisagions, je crois, la nouvelle année avec la perspective qui est exprimée dans ce verset dans Romains 12, 2. C'est-à-dire, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Puis vous avez sur votre feuille la version de Parole vivante, que j'ai trouvée intéressante, mais pas mal plus longue, mais ça fait ressortir des aspects que je crois qu'ils sont intéressants. C'est-à-dire, ne vous coulez pas simplement dans le monde, dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du monde. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Beaucoup de matière à réflexion dans ces quelques mots. Ce renouvellement de l'intelligence peut se réaliser par la grâce de Dieu en tenant compte des trois R que l'on retrouve dans Colossiens 3. Et si vous voulez suivre dans votre BIM, c'est dans Colossiens 3. Peut-être que ça va être un petit peu différent que ce que je vais dans la version que j'utilise, mais ça c'est pas grave. L'idée est là pareil. Alors, dans ce passage-là qu'on regardait ce matin, dans Colossiens 3, il y a trois impératifs qui nous exhortent à l'action. C'est rechercher, renoncer, revêter. Dieu invite ses enfants à répondre à l'appel du renouvellement continuel à la nouvelle vie que Dieu veut opérer en nous tout au long de la nouvelle année. Chaque jour qu'il nous prête, qu'il nous accorde, c'est avec l'idée qu'il va continuer son œuvre en nous pour renouveler notre pensée, renouveler notre intelligence. Naturellement, bien, est-ce qu'on va coopérer? Je lisais récemment, au début de l'année, justement, parce que c'était un livre de méditation sur, quand on prenait l'année, il dit, « Votre cœur est-il aussi ouvert et prêt qu'il peut l'être, s'attendant à ce que cette année soit la plus positive, la plus puissante en termes de changement et de croissance spirituelle que vous avez connue depuis longtemps? » Est-ce qu'on est ouvert et prêt à ce que Dieu puisse continuer son œuvre de transformation dans nos cœurs, dans nos pensées? Quand on lit la lettre de Paul aux Colossiens, il faut garder à l'esprit qu'il s'adresse à des croyants, à des enfants de Dieu. C'est ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ pour passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, qui ont, grâce à Jésus-Christ, une nouvelle vie. Mais une vie, ça a besoin d'être entretenue, d'être alimentée. Et c'est ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Alors, il s'adresse à des enfants de Dieu, à des croyants. Parce que ce qu'on va voir, bien, on pourrait se poser la question, mais es-tu vraiment des enfants de Dieu, ce monde-là? Parce que, en tout cas, vous allez voir en lisant, si vous ne l'avez pas lu, ou ça fait longtemps que vous ne l'avez pas lu. Ce renouvellement comprend trois impératifs principaux, dont le premier, c'est rechercher. Ici, on voit ça dans le verset 3, 1 à 4, c'est-à-dire. Il dit, je vais vous lire, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors, l'apôtre Paul exhorte ses lecteurs à rechercher. Dans les chapitres précédents, Paul a cherché à expliquer à ses lecteurs de leur position en Christ, les privilèges qu'ils avaient à cause de la relation spéciale qu'ils avaient avec Christ. Et là, au chapitre 3, il entreprend une série d'exhortations qui met l'accent sur le côté pratique de la nouvelle vie en Christ. Et ça commence avec le premier mot « si ». Mais ça ne veut pas dire que c'est pas pour exprimer un doute par rapport à leur condition. C'est plutôt l'idée « puisque donc vous êtes ressuscité avec Christ ». En voulant dire, c'est un fait accompli, c'est une réalité. Ils sont les enfants de Dieu, ils sont en Christ, ils sont ressuscités avec Christ. Et ça sous-entend que pour ressusciter, il faut qu'il passe quoi? Qu'il se passe quoi avant? Qu'il meure. Et ça, c'est expliqué ailleurs dans Romains, où ce que c'est que ça nous dit qu'on est mort avec Christ, on est enseveli, puis on est ressuscité avec Christ. Pour l'enfant de Dieu, la personne qui a placé sa confiance en Jésus-Christ. Alors, dans ce renouvellement que Dieu veut opérer dans nos cœurs, qu'il veut continuer de faire dans notre vie, eh bien, il nous demande il nous exhorte de rechercher. Rechercher, ça sous-entend ou ça veut dire poursuivre, être en quête de quelque chose, s'efforcer d'obtenir, désirer posséder. C'est qu'on veut l'avoir, on veut s'en approprier. Et dans l'original, le temps du verbe, c'est un temps spécial, ça veut dire continuellement. C'est pas quelque chose qui se fait une fois pour toutes, puis c'est fini, c'est continuellement. Alors, rechercher continuellement, tout au long de notre parcours terrestre, en tant qu'enfant de Dieu, les choses d'en haut. Ensuite, il y a le prochain impératif, attachez-vous. Et dans l'original, ça a l'idée de penser, même certaines versions ont traduit par pensez, préoccupez-vous de toute votre pensée, tendez vers. Alors, c'est de tendre vers quelque chose pour s'en approprier, pour que ça devienne nôtre. Et ça parle au niveau des pensées. Il s'agit de se concentrer sur quelque chose et pas juste, on va dire, c'est pas grave, là, je laisse mes pensées vagabonder, mais je concentre mes pensées sur les choses d'en haut. Et un verset qui est. Ces versets-là, je vous ai donné la référence parce que c'est ceux-là qui s'en viennent plus tard que vous allez voir qu'il faut prendre note. Là. Il dit enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Alors, il définit quel genre de pensée qu'on est appelé à avoir en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce que l'enfant de Dieu est appelé à rechercher? À quoi doit-il s'attacher? Bien, les quelques versets qu'on a lus au début, eh bien, c'est des choses d'en haut. C'est des choses qui sont prioritaires du point de vue de Dieu. C'est des choses que lui considère comme étant important et pertinent. C'est des choses qui ont une perspective céleste et éternelle. Semblable à ce qui est exprimé dans Matthieu 6, 33. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Ce n'est pas défini directement, mais tout ce que c'est qui rapporte au royaume puis à la justice, c'est ça qu'on est appelé à rechercher. parmi plusieurs autres choses. On aurait pu s'arrêter sur cet aspect-là pour le restant de la matinée. Mais j'aimerais continuer. C'est vrai qu'en étant ici-bas sur Terre, c'est normal qu'on va se préoccuper de choses qui sont pertinentes à nous. Si on ne se préoccupe pas de voir est-ce qu'il y a de la nourriture sur la table, bien, il va y avoir un moment donné qu'on ne sera plus à la table. Hein? Ce n'est pas que Dieu dit, bien, vous devez mettre tout de côté puis juste vivre dans les nuages, puis, c'est beau. Hein? La réalité est là. On a besoin de choses essentielles pour vivre. Mais ces préoccupations matérielles ne devraient pas prendre le dessus puis nous empêcher de rechercher ce que Dieu met comme priorité. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes morts avec Christ afin de vivre pour lui et par lui. Nous sommes intimement liés, étroitement liés avec Christ. Même Paul, dans l'épître précédente, il parle où est-ce qu'on est en tant qu'enfant de Dieu? On est où? On est déjà assis dans les cieux. Peut-être qu'on aimerait que ce soit frais, quasiment une réalité là, pour certains. Parce qu'à cause des épreuves, à cause de la maladie ou quoi que ce soit. Mais du point de vue de Dieu, ses enfants sont déjà dans sa présence. Ça dépasse notre entendement, notre compréhension, mais il nous a laissés ici-bas en attendant. Notre place est réservée. OK? Les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Attachez-vous. Pensez, préoccupez-vous des choses. La volonté de Dieu, c'est que l'on recherche les choses d'en haut, qui ont une importance et une valeur éternelle. Peut-être que nous, on aimerait avoir quelque chose de plus tangible, un peu plus concret, mais c'est par la foi, dans le fait que Dieu s'est révélé dans sa parole, que Christ a promis à ses disciples qu'il allait leur préparer une place. Il y a plusieurs postes de radio hein, ou de chaînes de télévision. En tant que personne, on peut choisir ce qu'on va écouter, ce qu'on va regarder. S'il s'agit de s'intoniser là où ce qu'on veut. Le monde nous bombarde de part et d'autre, par toutes sortes de manières, veut capter notre attention. Peut nous distraire, nous dérouter. Mais où est-ce qu'on s'intonise? Parce que Dieu aussi, lui, il émet des ondes célestes par sa parole. Quelle est la fréquence que nous s'intonisons? Est-ce que nous sommes plus préoccupés à écouter ce que le monde a à dire? Qu'est-ce que Dieu a à dire? Qu'est-ce qui alimente et nourrit nos pensées? Répondre à l'appel du renouvellement continuel à la nouvelle vie que Dieu veut opérer en nous dans la nouvelle année, eh bien, d'après ce qu'on voit, on vient de lire, ça commence par rechercher les choses d'en haut. Ensuite, Paul ramène ses lecteurs sur terre, car c'est là qu'ils sont et c'est là que nous sommes pour le moment. Paul aborde le volet négatif de notre séjour ici-bas. Et là, il va parler de renoncer, les versets 5 à 11. Et cela peut être traduit par débarrasser ou rejeter. On vit dans un monde qui, avec le temps, s'est convaincu que le péché n'existe plus. Et ça, c'est à se demander, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais je me suis demandé, est-ce que je suis arrivé à la même conclusion? Est-ce qu'on est arrivé à la même conclusion que le péché n'existe plus? Sommes-nous devenus à l'aise avec ce que Dieu qualifie de péché? Minimisons-nous ce que Dieu considère une offense envers lui? Faisons-nous des compromis ou des concessions pour soulager notre conscience? Bien, en tant que ses enfants, Dieu nous a appelés à voir les choses de son point de vue et non du nôtre. De voir les choses de la perspective de notre Père Céleste. Et c'est là que Paul enchaîne avec l'idée qu'il faut renoncer. Et il exhorte ses lecteurs à passer à une action radicale. Sous mettons, l'idée de renoncer, il voit un niveau un peu plus intense, parce que du fait que ça commençait pas par air, c'est pour ça que je ne l'ai pas inclus, mais je vais le mentionner pareil. Ça dit, faites donc mourir. Faites donc mourir, ou mortifier, livrer à mort. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu mets ça sur la tablette, puis t'espères que il ne mourra pas? Faites donc mourir. Et Jésus lui-même, quand que il parla à propos d'être un de ses disciples, il a dit dans Luc 9, 23, puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » C'est les paroles de Jésus. Qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse en tant que ses disciples? Si on se dit disciples, c'est de renoncer à nous-mêmes. Puis, comme vous savez, puis comme je sais, renoncer à soi-même, ce n'est pas la priorité sur notre liste de choses à faire. On résiste à ça. Mais ça n'empêche pas que c'est ça que le Seigneur a dit. Rechercher les choses d'en haut implique de mourir et renoncer à certaines choses. Des choses que Dieu ne veut pas, qui caractérisent ses enfants. Ce sont des choses identifiées comme terrestres. Alors, faites mourir. Faites donc mourir. Puis là, bien sûr, c'est là que je vais vous donner le verset. C'est l'immoralité sexuelle, puis là c'est le verset 18, si vous voulez le mettre sur votre feuille. Et c'est traduit ailleurs par débauche, fornication, impudicité, inconduite. C'est tout comportement sexuel en dehors du cadre permis par Dieu, et particulièrement en dehors de la relation légitime du mariage. Mettez à mort cela. Ensuite, l'impureté. Traduit par pensée impure, souillure. Alors, c'est pas juste les actions, mais c'est tout ce qui se passe, on va dire, entre les deux oreilles. Les pensées, les réflexions, les motifs du cœur. Il s'agit, dans un sens, d'avoir un comportement propre externe, mais aussi interne. Et ça, c'est le verset, c'est Matthieu 15, 19. Ensuite, mettez à mort les passions. Et certaines traductions ont des qualificatifs comme passion incontrôlée, coupable, des affections déréglées, d'égoïsme, luxure. C'est des désirs démesurés. C'est une obsession. C'est en quête, une quête ardente de choses que Dieu ne peut pas approuver parce qu'elles sont contraires à ce qu'il honore. Et vous avez le Galates 5, 24. Ensuite, faites mourir les mauvais désirs, qui est traduit ailleurs par désir inavouable, des choses honteuses, mauvaises convoitises. C'est toutes des. C'est quasiment dans la même idée, mais je pense que sous l'inspiration de l'Esprit, l'apôtre Paul emploie plusieurs termes pour, au juste au cas où qu'on n'a pas saisi le premier, ou le précédent, ou celui qui suit. Il veut nous amener à voir que il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vieille nature. Et là, c'est d'aspirer à des choses défendues quand on parle de mauvais désirs, que Dieu ne peut pas approuver ou encourager. C'est de laisser libre cours à nos pensées mauvaises et destructives. C'est de pencher plus vers le mal que le bien. Et là, vous avez Jacques 1, 14 et 15. Faites mourir la soif de posséder. C'est traduit ailleurs par avarice, attachement au bien, avidité, cupidité. On peut parler de convoitise, c'est de jamais être satisfait. Il faut toujours avoir un petit peu plus. Puis ça peut, c'est pas obligé d'être des grandes choses qui ont de grandes valeurs. C'est juste qu'on est insatisfait. C'est dans le sens d'être mécontent de ce que Dieu nous accorde, dire, bien, Dieu, tu m'en donnes pas assez. J'en ai pas assez. J'aimerais en avoir un petit peu plus. Puis là, mais je devais en avoir plus, là, je vais être correct. Jusqu'à temps que, si Dieu l'accorde, bien, non, ça ne suffit pas. Encore un peu plus. Encore un peu. Et ça, vous avez Exode 20, 17. Et là, on voit que, après ça, c'est dans le verset 5. Le verset 6, c'est dans Colossiens 3, c'est à cause de cela, les choses qu'il vient de mentionner, que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. C'est en train de parler aux croyants de Colosse. Ça met Dieu en colère, ces choses-là. Et c'est ce que vous étiez. Autrefois, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela. Puis là, il revient. Il n'a pas fini sa liste de choses auxquelles on est appelé à faire mourir ou à renoncer. Et il poursuit au verset 8 par d'autres. Renoncez à tout cela, dit-il, la colère. C'est un lien profond d'amertume qui bouillonne intérieurement. Puis lorsqu'elle se manifeste, elle a tendance de se déchaîner en paroles et en actes. Et vous avez Jacques 1, 19, 20. Ensuite, renoncer à la fureur, qui est traduit animosité, courroux, emportement, irritation, violence. C'est une colère qui déborde, qui explose soudainement. Vous avez entendu l'expression « il y a la mèche courte ». Bien, vous pouvez traduire ça là, tu sais. Puis quand ça l'explose, c'est que même pas conscient, même pas soucieux, que quelle que soit l'explosion, ça cause du dommage considérable dans son entourage. Et là, vous avez Éphésiens 4, 31. Renoncer à la méchanceté, traduit malfaisance, malice, Il s'agit d'un désir de faire du mal ou du tort à quelqu'un. C'est de ne pas être satisfait à moins de voir la personne qui est dans notre mire souffrir. C'est une attitude de règlement de compte. Et là, vous avez Proverbe 4:16. Là, je vais vous lire celui-là parce que c'est assez particulier. Parce que ça décrit quelqu'un à vraiment à l'extrême. C'est-à-dire, en effet, ils ne dorment pas tant qu'ils n'ont pas fait le mal. La plupart des gens, ils ne dorment pas parce qu'ils ont fait le mal. Parce qu'il y a quelque chose sur leur conscience. Mais ici, il décrit quelqu'un que parce qu'il n'a pas pu faire le mal, ça l'empêche de dormir. Alors, c'est assez extrême. On poursuit. Renoncer à la calomnie, qui est traduit par insulte, injure, médisance, outrage. C'est de laisser sortir de notre bouche quelque chose juste pour rabaisser, pour blesser, pour faire mal à quelqu'un. Et dans certaines, en anglais, c'est traduit par blasphème, c'est-à-dire quand on emploie le nom de Dieu en vain, dans un sens, on le calomnie. C'est d'abaisser les autres. Puis on peut même inclure là-dedans le commérage. On ne se soucie pas si l'information est bonne, impertinente, mais bon, voilà. Là, vous avez 1 Pierre 2:1. Ensuite, ça parle de renoncer aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Et c'est traduit ailleurs par propos grossiers, vilains, paroles choquantes, déshonnêtes, équivoque, honteuse. Ce sont des paroles malsaines, abusives. C'est de lancer des mots à tort et à travers, encore dans le but de faire du mal, de nuire, de blesser. Vous avez Éphésiens 4, 29. Et ensuite, Paul poursuit, parce qu'on dirait que je peux m'imaginer, en tout cas, je suis en train de me préparer. Je me suis dit, si je me mettais à la place des chrétiens qui étaient là à Colosse, puis on est en train de leur lire cette lettre, ma réaction, j'aurais dit, y as-tu fini? Hey! Voyons! Tu ne peux pas nous en donner un peu de slack, là, un peu de lousse? Je veux dire, voyons! Je suis en train de faire une injection. Non, pas les. C'est pour ça que j'apprécie le fait que c'est sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu que la parole a été écrite. Parce que Dieu, lui, il connaît notre condition. Il connaît notre cœur. Puis il sait ce qu'on a besoin d'entendre, même si ça ne fait pas notre affaire. Alors, l'apôtre Paul pourrait ajouter à tout ça, il dit, ne mentez pas les uns aux autres. Mentir, c'est de recourir et utiliser l'outil et les tactiques du diable. Parce que, comment est-ce qu'il est identifié? Dans la parole, il est le père du mensonge. Puis Dieu est vérité. Les deux, on dit, ne coexistent pas. Et Dieu veut voir dans ses enfants des personnes qui vont vivre la vérité, qui vont transpirer la vérité, qui vont dire la vérité, qui vont penser la vérité. Et dans ce contexte-là, du verset, je vais vous lire la suite. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Alors, l'apôtre Paul utilise l'image justement de l'enfant de Dieu qui se dépouille du vieil homme, de ses manières d'agir. La nouvelle vie en Christ nécessite de renoncer à ce qui caractérise l'ancienne vie, mon vieil homme, ma vieille nature. Ma nouvelle vie en Christ doit refléter une nouvelle réalité. Il doit y avoir une différence entre ce que je suis aujourd'hui et ce que j'étais avant. Et c'est pour ça que je crois que l'apôtre Paul ici, je ne sais pas à quel temps de l'année qu'il écrivait, je ne sais pas si c'était le 1er janvier, mais ça s'applique tout au long de l'année. Il voulait amener ses lecteurs à s'arrêter puis de faire un inventaire, un genre de ménage spirituel pour que leur relation avec Christ puisse s'épanouir et honorer le Seigneur. Et c'est ça ce que Dieu voudrait faire dans chacune de nos vies. Si nous sommes son enfant, si nous sommes son disciple. Répondre à l'appel du renouvellement continuel de la nouvelle vie que Dieu veut opérer en nous dans la nouvelle année, ça commence par rechercher les choses d'en haut, suivi de renoncer au péché qui caractérise le vieil homme. Puis, ça inclut les femmes. OK? Mais vous n'êtes pas exclus. On est très inclusif ici. La parole est inclusive, c'est-à-dire. Alors, il ne suffit pas de se débarrasser de certaines choses, comme il vient d'être mentionné, parce que cela produirait un vide, puis un vide a besoin d'être rempli. Mais selon Paul, le vide doit être comblé par les vertus de Christ, à qui l'enfant de Dieu est appelé à ressembler. Et Paul poursuit justement avec l'image de s'habiller de certaines caractéristiques. Et on voit ça dans les versets 12 à 17. Au verset 9, on vient de lire, vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Et ne voulant pas les laisser dans cet état-là, Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, poursuit en énumérant les choses qu'on est appelé à se revêtir. Premièrement, les sentiments de compassion qui se traduit par affectueuse, ardente bonté, miséricorde, tendresse, magnanime, un mot qu'on emploie quasiment tous les jours. Mais magnanime, ça veut dire, c'est quelqu'un qui fait preuve de clémence, qui est indulgent. Et dans l'original, ça parle d'entrailles de compassion, parce que les Grecs associaient les émotions profondes avec la région intestinale. Nous, on dit au Québec, en quoi c'est, on parle nos tripes, hein? Alors, on ressemble un peu aux Grecs, de ce point de vue-là. C'est que ça nous touche en profondeur. Des compassions qui véritablement viennent nous chercher du plus profond de nous-mêmes. Alors, Paul dit, revêtez-vous de sentiments de compassion. Ayez un temps de compassion envers ceux qui vous entourent, qu'ils soient des frères dans le Seigneur, des sœurs dans le Seigneur, ou démontrer cette compassion-là, cette tendresse-là. Et vous avez un Pierre 3:8. Ensuite, il dit, revêtez-vous de bonté, traduit par bienveillance ou pitié. C'est de se soucier d'avoir une attention particulière, spéciale, pour faire du bien aux autres. quelle que soit la situation ou les circonstances. Et pas basé sur le fait qu'il le mérite ou non. Non. Démontrez de la bonté. Revêtez-vous de bonté. Vous avez Galates 5, 22. Ensuite, revêtez-vous d'humilité. Qu'est-ce qui prévaut dans le monde actuel, puis même probablement dans le temps de Paul, où est-ce que c'est que les Grecs considéraient l'humilité comme étant « Ouf, non, tu ne vas pas là pantoute, là. Pourquoi tu te montres humble? » Voyons. Puis, ça n'a pas changé bien parce que on est orgueilleux. L'être humain est orgueilleux. On est orgueilleux. Et si on ne l'était pas, pourquoi est-ce que Paul nous exhorterait de se revêtir d'humilité? Hein? Et là, vous avez Philippiens 2, 3, 4. Ensuite, revêtez-vous de douceur. Et c'est d'avoir une délicatesse, une tendresse, un comportement qui évite de traiter les autres brusquement. On va les traiter plutôt avec délicatesse. Et vous avez Philippiens 4, 5. Et revêtez-vous de patience. Et ailleurs, dans une autre traduction, ça dit « longanimité ». Ça, c'est un autre mot qu'on emploie tous les jours. Mais c'est une patience dont fait preuve celui qui a le pouvoir de faire cesser ce qui lui déplaît. Il a le pouvoir d'intervenir puis de faire mettre fin à ce qui dérange, mais il prend un pas de recul, puis il n'agit pas par... impulsion, il n'essaie pas dans un sens de provoquer. Il riposte pas. Il est patient. Et vous avez Éphésiens 4, 2. Et après avoir fait cette liste de choses dont on doit se revêtir, il enchaîne avec quelques autres impératif. Il n'a pas fini, hein? Alors, au verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Alors, les trois prochains impératifs, supportez-vous les uns les autres. C'est d'avoir une certaine retenue. Par exemple, Dieu. Croyez-vous que Dieu est quelqu'un qui supporte? Hein? Alors, parce que s'il ne supporterait pas, là, on ne serait pas ici. Mais c'est ce qui la caractérise et voudrait que ça caractérise aussi ses enfants. Vous avez Romains 15, 1. Ensuite, pardonnez-vous réciproquement ou pardonnez-vous les uns les autres. C'est une suite logique, là, si, parce que toutes les choses dont on lui a mentionné précédemment, les fautes, les péchés, mais c'est des choses qui se produisaient entre eux. Puis là, Paul dit, bien, supportez-vous les uns les autres. Oui, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai qu'on se marche sur les pieds. C'est vrai que les paroles, parfois, sont blessantes. Mais soyez prêts à pardonner. Ayez cette disposition-là. Parce que pardonner, c'est ressembler à qui? À Dieu, à Jésus-Christ. Et on est invité à le refléter. Et vous avez Marc 11, 25. Et là, au verset 14, il dit, « Revêtez-vous, je vais l'afficher là, revêtez-vous par-dessus tout cela de l'amour, le lien de la perfection. » C'est comme, OK, vous êtes habillé là, avec toutes ces vertus-là, mais vous allez mettre le manteau ou la ceinture par-dessus tout cela pour tenir ça ensemble. Et ça va être, c'est l'amour. Et encore là, c'est ce qui le caractérise d'abord Dieu et qui voudrait que ça caractérise ses enfants. Et vous avez le passage dans Marc 12, 29, 31. Et, au verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps et règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la paix de Christ règne dans votre cœur. Il vient de faire une liste, il vient de nous mettre devant nous trois autres impératifs, supporter, pardonner, puis revêter. Puis quand on fait le bilan, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui reste dans notre cœur? Qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans notre cœur? Malgré ce qui peut se dérouler, malgré les malentendus, les offenses, en tout cas, quoi que ce soit, Dieu voudrait que ce soit sa paix qui règne dans notre cœur. Et ça va se réaliser si on prend le temps de retourner au début du chapitre 3, de rechercher les choses en haut, renoncer ce qui caractérise le vieil homme et de se revêtir des vertus de Christ. Dieu pourvoit les vêtements spirituels que nous sommes appelés à se revêtir. Et c'est décrit, comme dans Galates 5, 22, comme étant le fruit de l'Esprit. C'est pas quelque chose qu'on est appelé à produire en nous-mêmes, dans nos propres efforts, mais par une relation avec Dieu et que l'Esprit va opérer dans notre vie. Quand on s'est levé ce matin, avant de venir, on a décidé ce qu'on était pour porter, n'est-ce pas? Ou peut-être que vous l'avez fait la veille pour ne pas compliquer les affaires le lendemain. Je ne sais pas quelle est votre procédure. Mais on a décidé ce qu'on était pour porter. Bien, un peu dans la même manière, qu'est-ce qu'on va décider de porter comme vêtement spirituel? De quoi est-ce que nous allons nous revêtir? Quelles sont les caractéristiques du Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ? On va dire, aujourd'hui, là, je vais me revêtir de ça. Puis, remarquez que ces impératifs-là s'adressent à nous de passer à l'action. On n'est pas passif. Vous êtes ici ce matin parce que vous avez passé à l'action. Vous n'êtes pas resté chez vous, bien, en tout cas, si Dieu veut aller à l'Église, là, bien, qu'il m'amène. Hein? Si vous auriez fait ça, vous seriez encore chez vous. Hein? Répondre à l'appel du renouvellement continuel, à la vie nouvelle que Dieu veut opérer en nous dans la nouvelle année, commence par rechercher les choses d'en haut, suivi de renoncer au péché caractérisant le vieil homme pour se revêtir des vertus de Christ. Alors, on est dans la première semaine de la nouvelle année. En considérant ce passage, Dieu voudrait que nous prenions le temps de réfléchir, de s'examiner honnêtement et faire le bilan de notre marche avec lui. Répondre à l'appel du renouvellement continuel à la vie nouvelle que Dieu veut opérer en nous dans la nouvelle année. Et c'est là que le message va se continuer chez vous. Vous avez la feuille, vous n'êtes pas obligé, là. Mais ce que j'aimerais vous encourager de faire, c'est de prendre cette feuille-là, puis vous prendre un temps juste pour vous recueillir, puis réfléchir, puis demander à Dieu d'examiner votre cœur. Puis, vous n'êtes pas obligé de faire ça juste dans une session, parce que vous allez peut-être faire une indigestion. Ça va être peut-être trop démoralisant, décourageant. Mais faites-en un petit peu à la fois. Puis partez du point de vue qu'on a vu dans Romains 12, que Dieu veut faire un renouvellement de notre intelligence. Il veut l'accomplir par le fait qu'on va prendre le temps de rechercher les choses en haut. Et on va renoncer aux choses qui sont de notre vieille nature et on va se revêtir des qualités, des vertus de Jésus-Christ. Et le message va continuer. À chaque jour, quand vous allez prendre un peu de temps, eh bien, Dieu va faire son œuvre. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles je dois renoncer? Lesquelles sont mentionnées dans ce passage? Est-ce qu'il y a des choses que je dois m'assurer de revêtir? Lesquelles devraient être une priorité? Comment vais-je refléter davantage l'image de Dieu autour de moi durant cette année? Lorsque vous voyez ce symbole, la partie verte, là, rechercher, renoncer, revêter, eh bien, j'aimerais que vous en serviez comme un stimulant pour votre mémoire, ma mémoire, et de prendre l'occasion de dire, « Hey, je vais m'arrêter, puis je vais rechercher, je vais renoncer, je vais me revêtir. » Et je termine avec le psaume 139, 23-24. « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et lorsque vous prenez ce temps, si vous le prenez, bien, les versets que vous avez pris note, mais que cela, ce n'est pas les seuls versets qu'il y a dans la Bible sur le sujet. Je n'ai juste donné un comme ça. Si vous en trouvez d'autres, bien, tant mieux. Mais prenez le temps de lire ces versets, de méditer, demander à Dieu de continuer son œuvre dans chacun de nos vies. Prions. Père éternel, merci. Merci que tu nous aimes assez pour avoir d'abord donné ton Fils afin qu'on puisse avoir la vie. Mais tu veux aussi que de jour en jour, on puisse cultiver cette relation que nous avons à travers lui, avec toi. Et Seigneur, que cette année qui est devant nous, les jours que tu vas nous prêter, qu'on puisse justement désirer dans notre relation avec toi, désirer ce renouvellement de l'intelligence, qu'on puisse s'arrêter et rechercher les choses d'en haut. s'arrêter et sérieusement renoncer à ce qui caractérise le vieil homme, la vieille nature, et qu'on puisse désirer de plus en plus se revêtir des qualités, des vertus de Jésus-Christ, et que nos vies soient transformées à la gloire de ton nom. Amen.